Bonsoir, on va commencer. Alors, je veux tout d'abord saluer le courage de tous les courageux et courageuses donc, qui ont bravé le froid, les intempéries, le verglas pour monter sur la Croix-Rousse. Avant d'entamer le thème directement, donc faire un petit peu de pub pour les partenaires, donc rappeler que la semaine prochaine, ce n'est pas moi qui vais parler, mais ça s'inscrit dans la thématique du cours. Donc il y aura un exposé et une lecture par les comédiennes du TNP de la pièce Madame de Sade. Hein, donc une exposé de Jean-Pierre Jourdain sur la pièce et puis une lecture d'extrait de la pièce de Mishima donc par les comédiennes. Donc ça c'est la semaine prochaine. Et puis donc Madame de Sade qui est représentée au TNP de Villeurbanne du 20 au 31 janvier. Voilà. Alors maintenant j'attaque donc cette seconde séance du cours sur sexe et politique. Donc je vais attaquer véritablement concentré sur cette séance. Ce qui était annoncé dans le programme, ce que je n'avais pas pu traiter la semaine dernière, donc la question de la participation politique, hein, donc les deux séances vont être regroupées dans celle d'aujourd'hui. Deux mots de rappel pour faire le lien avec ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait vu au travers de la présentation du concept de genre deux choses principales qui étaient synthétisées dans la définition du concept de genre que propose John Scott. La première chose, c'est que la société produit des différences entre masculin et féminin, dont elle attribue la nécessité à la nature, alors que la nature, si je puis dire, ne lui a rien demandé. Et surtout, plus sérieusement, il n'y a pas de lien nécessaire, pas de détermination automatique entre le niveau anatomique des différences sexuelles et le niveau social des identités sexuées. Hein, et donc, ce niveau social des identités d'hommes, de femmes, c'est historique, donc arbitraire, et donc susceptible d'évoluer ou d'être transformé. Mais on avait vu aussi, et c'était un second point important, que la différenciation entre deux catégories de sexe, elle avait d'emblée à voir avec la hiérarchisation. On distingue les sexes pour les hiérarchiser, et la hiérarchie, elle est produite dans le fait même d'opérer une distinction. Et la conclusion essentielle à laquelle on était arrivé en fin de séance dernière, c'était donc que les rapports sociaux de sexe, le genre, sont des rapports de domination. Alors, aujourd'hui, je vais en assurer une forme de démonstration à partir d'un domaine bien particulier, qui est celui du politique dans notre société. Alors, c'est un choix qui s'impose du fait même du thème du cours de cette année, hein, donc sexe et politique, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une illustration, j'aurais pu en prendre d'autres, dans d'autres sociétés, dans d'autres époques historiques. Et notamment, j'aurais pu évoquer, parce que bon, dans le débat la semaine dernière, la question des autres sociétés, des sociétés plus traditionnelles, a été posée, et puis ça permet de faire le lien aussi avec la dimension symbolique de tout le discours de justification de la catégorisation entre hommes et femmes et de la domination, j'aurais pu évoquer, je vais en dire deux mots parce que c'est quelque chose d'assez exemplaire, le travail de l'anthropologue français Maurice Godelier, G-O-D-E-L-I-E-R, qui est un anthropologue contemporain, qui a travaillé sur une société de Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Baruya, B-A-R-U-Y-A, S au pluriel, alors, qui est une petite société hein, de type tribal où la domination masculine est très marquée et où elle est l'objet d'un travail de légitimation très, très élaboré. Et dans cette société, par exemple, on pense que seul le sperme des hommes est efficace dans la procréation. Hein. Le corps des femmes n'est qu'un réceptacle, pardon, quasi passif. Donc, pour la santé du fœtus, dans l'imaginaire de ces gens-là, il faut multiplier les rapports sexuels pendant la grossesse pour que voilà, le fœtus grossisse bien. Et puis après, également, juste après la naissance, parce que on s'imagine que le lait n'est rien d'autre que le sperme du père canalisé par le corps de la mère. Et puis ensuite encore parce que les enfants mâles, les petits garçons, sont enlevés assez tôt à leur mère pour être pris en charge par l'ensemble des hommes, parce que c'est une société où hommes et femmes ne vivent pas au même endroit, n'ont pas la même résidence. Et les hommes se chargent de l'éducation des garçons dans une maison à part, une maison collective, une maison des hommes, et où donc les garçons vont faire l'apprentissage de la virilité et vont se construire un corps d'homme, là encore via le sperme des aînés dont ils sont nourris. Alors, à la fois sur la forme, ça ressemble un peu au pensionnat catholique irlandais. En même temps, c'est tout à fait différent. Hein. Vous voyez bien que dans l'imaginaire de la société, on est dans une représentation où c'est le masculin qui domine et c'est le corps des hommes qui domine, et le produit du corps des hommes qui est uniquement, on va dire, la substance active, et le corps des femmes n'est quelque chose de totalement passif. Hein. Alors, j'aurais pu, j'ai oublié le bouquin, amener un texte de l'Encyclopédia Universalis qui décrit le processus écrit par un scientifique français contemporain, anonyme, hein, peu importe son nom, ça a été relevé par Françoise Héritier, qui décrit le processus de la fécondation en termes scientifiques avec le spermatozoïde qui est uniquement actif et l'ovule qui est uniquement passif. Hein. Donc voilà, les croyances des barouillas et leurs pratiques nous semblent très lointaines. Si on regarde de près, ce type de croyance agit aussi dans l'inconscient de nos sociétés, y compris chez les scientifiques qui s'occupent de la procréation. Et puis, ce qui est intéressant chez Barouilla, c'est que ces croyances sur le masculin uniquement dans l'actif et le féminin uniquement dans le passif, c'est que, alors, et puis toutes les pratiques qui vont avec, hein, que je viens de décrire, qui nous semblent un peu curieuses, c'est considéré comme normal par l'ensemble des membres de la société. Mais aussi que, et c'est important, ces croyances quant au, on va dire, à la force active du sperme des hommes, c'est un secret que les hommes conservent et que les femmes ne doivent pas connaître. D'où les dilemmes de Godelier quand il a écrit son livre, hein, la production des grands hommes, parce que il livrait des secrets sur lesquels était fondée la domination des hommes dans cette société. Alors évidemment, c'est une société qui depuis a été assez largement transformée, parce que précisément on leur a envoyé des prêtres catholiques, et puis voilà. Bon, voilà, j'attendais la réaction, c'est pas sûr que ça ait changé grand-chose. Bon, j'aurais pu aborder, donc voilà, c'était pour l'exotisme, je referme la parenthèse, j'aurais pu aborder d'autres secteurs de la vie sociale contemporaine, comme le marché du travail et les conditions économiques, hein, et on aurait vu que ce sont les femmes qui sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel, qu'elles sont aussi les premières victimes de la pauvreté, et que, à qualification égale, les salaires sont plus bas, et elles ont moins de possibilités d'accéder aux positions dominantes de leur secteur professionnel, hein, ce qu'on appelle le plafond de verre. On aurait pu voir ça dans le monde de la santé, le monde de l'éducation, le monde de l'art. Hein, qui est-ce qui connaît une femme chef d'orchestre ici? Bon, oui. Une. Bon, combien de femmes musiciennes de jazz aussi? C'est quelque chose qu'on discute assez souvent. Etc., etc. Bref, il y a de la domination masculine dans le domaine politique, mais, et je vais le montrer, mais ce n'est pas un cas isolé, c'est un exemple parmi d'autres. Alors la séance d'aujourd'hui, elle sera divisée en trois parties. Je vais d'abord aborder la question de l'accès des femmes à la citoyenneté et au vote. Ensuite, je traiterai du militantisme dans les partis politiques et de l'accès des femmes aux positions d'élus. Et puis, enfin, j'aborderai la question du militantisme au sein des mouvements sociaux. Alors, premier point donc sur la question de la citoyenneté, je vais faire un détour par introduire un peu à cette question-là. Cette question de la citoyenneté et de la démocratie, elle a été pensée de manière très constructive par un philosophe allemand contemporain, Jürgen Habermas, H-A-B-E-R-M-A-S, au travers d'un concept central qui est celui d'espace public. Alors, espace public, on peut l'entendre au sens le plus direct, c'est-à-dire un lieu géographiquement situé qui est public, c'est-à-dire que chacun peut y accéder, entendre ce qui se raconte dans ce lieu, dans cet espace, et prendre la parole aussi lui-même. Hein, et on peut avoir comme image un peu immédiate de l'espace public le café du commerce où chacun dit son opinion sur le cours de la vie politique et défend ses positions sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, etc. Et puis, par extension, l'espace public, ce sont aussi d'autres choses qui sont moins précisément situées géographiquement. Ça peut être la presse, hein, à condition que cette presse soit libre et accessible. Ou aussi, on débat des affaires publiques. C'est aussi les parlements, où les débats sont effectivement réservés à ceux qui se sont fait élire pour représenter le peuple, mais ces élus... donc sont les représentants du peuple et leurs débats sont publics. Hein, on a dans le journal officiel le compte-rendu des analytiques de ce qui se dit à l'Assemblée nationale et au Sénat et tout un chacun a les moyens de s'informer sur ce que les députés, les sénateurs disent. Bon. Alors, cet espace public, il a été mis en place au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle et bien évidemment la Révolution française a joué un rôle crucial dans la mise en place de cet espace. Hein. L'Assemblée constituante qui s'est mise en place à partir des États généraux de 1789, elle est publique. Hein. Ces débats sont publics. De même, les différents courants révolutionnaires se sont constitués en club, où là aussi les débats sont un peu sur le modèle du café du commerce. Hein. Et puis, on peut... la préhistoire de ça, ce sont les salons de la bourgeoisie et de l'aristocratie auparavant, où voilà, des lieux alors qui sont moins publics, hein, qui sont d'un accès plus réservé, mais où là, on débat des affaires politiques. Et donc les salons ont un peu préparé cette conception de l'espace public tel que Habermas nous la présente. Alors une critique qui a été adressée à Habermas, et il a reconnu lui-même que c'était une critique fondée, c'est qu'il n'a pas souligné suffisamment que son espace public, malgré qu'il soit public, il est malgré tout sélectif. Tout le monde n'a pas accès, ou n'a pas accès au même titre, à cet espace public. Et l'espace public démocratique bourgeois tel qu'il se met en place au moment de la Révolution française, c'est un espace public masculin, auquel les femmes n'ont pas accès. Les femmes n'ont pas... Si on prend la période du XIXe siècle et du début du XXe siècle, elles ont très peu accès à la presse. Hein, elles peuvent la lire éventuellement, mais elles n'y écrivent pas, ou très rarement. Il y a quelques journaux féminins, mais qui restent malgré tout marginaux. Il leur est interdit de se faire élire comme représentante du peuple. Et puis, si on s'en tient à voilà, cette idée un peu immédiate, basique de l'espace public au sens du café, hein, du lieu public ou du pub anglais, hein, ce sont des lieux auxquels elles ont difficilement accès, parce que ce sont des lieux qui leur sont déconseillés, ou alors elles doivent être accompagnées, même accompagnées d'un homme, évidemment. Et ce sont des lieux où leur réputation risque d'en souffrir si elles les fréquentent. Hein, une femme qui fréquente un lieu public, qui plus est sans être accompagnée, c'est, on pourrait dire par extension, une femme publique. Hein, et évidemment, homme public et femme publique, ça n'a pas du tout le même sens, comme par hasard. Hein. D'où l'enjeu pour les femmes du XIXe siècle, et c'est quelque chose que des historiennes féministes comme Michel Perrault ont bien souligné, l'enjeu décisif pour les femmes, ça a été de pouvoir sortir. C'est-à-dire de quitter le foyer familial, de ne plus être sous la tutelle, le contrôle de leur père ou de leur mari. Sortir, ça veut dire éventuellement aller travailler, donc avoir potentiellement une indépendance économique, avoir une vie sociale, hein, pas simplement fréquenter le cercle restreint du voisinage et de la famille, mais s'ouvrir de nouveaux horizons éventuellement. Donc tout ça, ça a été des enjeux décisifs pour les femmes. Et ce qui explique aussi que tout un dispositif juridique et pas seulement juridique, répressif, est visé à les empêcher de sortir. Hein. Alors sous forme diffuse de la mauvaise réputation, hein, une femme qui sort, qui sort seule le soir, c'est un peu douteux. Enfin, c'est un indice qu'elle a une moralité douteuse. Et puis on avait des dispositifs institutionnels comme la police des mœurs au XIXe siècle qui était là pour rafler toutes les femmes isolées dans l'espace public le soir tombé. Hein. Alors, officiellement pour contrôler les prostituées, mais il a pu arriver que des jeunes femmes qui n'étaient pas prostituées se fassent rafler et se fassent contrôler. Bon. Parce que elles n'ont pas à être dehors le soir, toutes seules. Et puis, s'il leur arrive des problèmes, c'est qu'elles l'ont bien cherché. Non, mais une nouvelle fois, je joue la provocation, mais pour dire que le 19e siècle n'est pas forcément si loin que ça. Que c'est aussi des choses qu'on peut entendre. Que les femmes n'ont pas à être dehors seules le soir. Et si elles ont des problèmes, Bref, la critique qui a été adressée à Habermas, et notamment par une philosophe canadienne qui s'appelle Nancy Fraser, F-R-A-S-E-R, notamment dans un article qui a été traduit dans la revue Hermès, qui s'appelle « Repenser la sphère publique », qui a été publié en 2001, enfin en français en 2001. Donc la critique de Nancy Fraser, et puis d'autres, elle compte parmi celles qui ont le plus clairement exprimé cette critique, c'est que son espace public, il est traversé par le genre, par des rapports de domination fondés sur le sexe. Alors que précisément, chez Habermas, l'espace public, ça prétend une forme d'universalité, d'accès de tout le monde. Tout le monde de sexe masculin, mais pas, ou plus difficilement pour les femmes. Et il est arrivé à Habermas ce qui arrive à énormément d'intellectuels hommes, c'est-à-dire de prendre le masculin pour l'universel. Et alors c'est sur un registre tout à fait différent, mais je ne résistais pas au plaisir de vous citer une phrase de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, qui c'est un autre registre que Habermas, un autre propos, mais Lévi-Strauss dans ce livre raconte comment il fait de l'ethnographie dans une société amazonienne, dans une tribu de la forêt amazonienne, et il dit « Tout le monde part à la chasse, je reste seul avec les femmes et les enfants dans le village déserté ». C'est mignon quand même. L'universel, c'est le masculin. Tout le monde, c'est le masculin. C'est implicite. Bon. Alors, je referme la parenthèse lévi-straussienne. Mais si je fais le détour par Habermas et par la critique d'Habermas, c'est pour pointer quelque chose de connu, mais sur lequel il est toujours utile d'insister, c'est que les principes démocratiques qui ont été proclamés lors de la Révolution française de 1789, et puis par les suivantes, ils ont, pendant bien longtemps, été conçus uniquement comme masculins. Au moment de la Révolution de 1789, le moment de la naissance et de la construction du projet républicain dans notre pays, et puis par son écho au-delà de notre pays, il y a des voix qui réclament l'accès des femmes aux politiques, notamment celle de Condorcet, et puis celle d'Olympe de Gouges, G-O-U-G-E-S, qui, une féministe de pionnière, on va dire, qui, en 1791, rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour pointer que déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un peu restrictif. Là aussi, on pense que c'est universel, mais c'est un universel quand même très situé, qui exclut implicitement la moitié de l'humanité. Et c'est quelqu'un qui est très en avance sur son temps, Olympe de Gouges, parce qu'elle demande notamment le droit au divorce. Elle demande la suppression du mariage, qui serait remplacé par un contrat annuel renouvelable signé entre les contractants. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez visionnaire. Bon, elle réclame aussi d'autres choses, parce que c'est les préoccupations féministes ne sont pas isolables du reste. Elle réclame une protection sociale pour tous, l'abolition de l'esclavage et... Bon, évidemment, une totale égalité entre les sexes. Et elle affirme que la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit donc avoir le droit de monter à la tribune. Et malheureusement pour elle, on va seulement lui reconnaître le premier de ses droits. Et elle sera guillotinée comme girondine en 1793. Donc voilà des voix qui, malgré tout, se sont exprimées au moment de la Révolution, mais qui sont restées malheureusement assez marginales. Alors, par la suite, le suffrage censitaire, 1830, va contribuer à rationaliser l'exclusion des femmes de la citoyenneté. L'homme vote s'il paye des impôts, c'est le principe du cens, mais il ne vote pas comme individu, il vote comme représentant d'une famille. C'est-à-dire qu'il représente par son vote sa femme, ses enfants, ses domestiques, s'il paye des impôts, c'est sans doute qu'il a des domestiques, qui sont considérés comme n'ayant pas la capacité d'avoir une opinion par eux-mêmes. Hein. Et donc, c'est le chef de famille qui est seul à même de faire un bon choix. Hein. Donc, on retrouve des choses pour ceux et celles qui ont entendu le cours de Claude Gauthier. Hein. Il a beaucoup insisté sur la famille comme lieu de partir duquel on pense les rapports entre les sexes. On retrouve quelque chose de ça dans cette conception du suffrage censitaire. Et puis, lorsque, après la révolution de 1848, on réinstaure le suffrage universel, c'est un suffrage à moitié universel, vu qu'il est seulement masculin. Hein. Les femmes sont considérées comme d'éternels mineurs qui doivent, dans toute une série de lieux de leur existence, s'en remettre à la décision de leur père ou de leur mari. Hein. Et, par exemple, dès 1884, les femmes ont le droit d'adhérer à un syndicat, mais avec autorisation de leur mari. Il faudra attendre 1920 pour qu'elles puissent adhérer par elles-mêmes à un syndicat. Alors, c'est quelque chose de connu que la France n'a accordé le droit de vote que tardivement aux femmes, hein, seulement en 1945. Je vais revenir sur cet épisode-là. Mais quelques exemples pour situer la France. Hein, la Nouvelle-Zélande a accordé le suffrage universel masculin en 1879 et l'a étendu aux femmes en 1893. Elle a été assez vite suivie par l'Australie. Les pays nordiques, Finlande, Norvège, Danemark, c'est le début du 19e, du 20e siècle. Pardon. La Russie en 1917, bon, peut-être un événement qui a joué. La Grande-Bretagne en 1918, pour les plus de 30 ans. En 1928 pour les femmes majeures. Alors, l'Afrique du Sud, quand même, c'est pour montrer aussi que la domination masculine, ça s'entrecroise avec d'autres choses. L'Afrique du Sud l'accorde en 1930 aux Blanches, en 1984 aux Métis et aux Indiennes, et en 1994 aux Noirs. La Turquie, c'est 1934, la Suisse, c'est 1971, le Portugal, 1974. C'était hier. Alors, le cas de la Grande-Bretagne, il est intéressant parce qu'il a connu au début du XXe siècle une très forte mobilisation, celle des suffragettes, hein, qui s'est signalée par sa radicalité. Hein. Je veux m'arrêter un peu là-dessus parce qu'on a l'idée suffragette. Alors, le être, ça rabaisse un peu. Ça fait, et puis, on a l'idée de vieille fille un peu toquée qui, un mouvement un peu ridicule. C'était pas du tout un mouvement ridicule, c'était un mouvement de masse. Hein. On avait des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, notamment en 1908 à Manchester, entre 250 000 et 500 000 personnes qui manifestent. Des manifestations qui tournent à l'émeute. Et puis des femmes un peu kamikazes, une qui fouette Churchill d'un coup de cravache. Une autre qui se suicide en se lançant sous les sabots du cheval du roi en 1913. Un millier d'entre elles qui sont arrêtées et mises en prison où elles conduisent des grèves de la faim. Donc c'est pas un petit mouvement ridicule, c'est un mouvement de masse, c'est un mouvement très très radical. Alors après l'entrée en guerre de l'Angleterre en 1914, les suffragettes vont participer à une espèce d'union sacrée à l'anglaise. Hein, elles vont soutenir l'effort de guerre. Et en 1918, donc comme forme de récompense, on va leur accorder le droit de vote. Hein. Parce que les femmes ont réalisé un énorme travail à l'arrière quand les hommes étaient au front. Et la même chose s'est passée, ou plus exactement aurait pu se passer en France. Parce que c'est à la sortie de la guerre de 14, et pour remercier les femmes de leur contribution à l'effort national, que le monde politique commence à penser à leur accorder le droit de vote. Hein. C'est notamment une revendication qui est portée par la gauche socialiste, et le 8 mai 1919, on a une proposition de loi en ce sens qui est discutée et adoptée à l'Assemblée nationale. Sauf que le Sénat va faire barrage systématiquement, hein, et il faut que les deux chambres votent, donc l'Assemblée nationale c'est bon, mais le Sénat va à chaque fois refuser, à chaque fois qu'on va mettre ça à l'ordre du jour, le Sénat va faire obstacle par une alliance contre nature, si je puis dire, entre les radicaux et les chrétiens de droite. Les radicaux parce qu'ils craignent que les curés disent aux femmes pour qui voter, et les chrétiens de droite parce qu'ils se disent que le rôle de la femme n'est pas de participer aux affaires publiques. Et en plus, ils ont très peur parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la France de l'après-guerre, hein, vu le nombre d'hommes qui se sont fait massacrer dans les tranchées. Donc ça sera bloqué jusqu'à 1936, le Front populaire, il y a un certain espoir qu'on va relancer la machine, d'autant qu'il y a 3 femmes au gouvernement du Front populaire. Alors, il y a Irène Joliot-Curie à la recherche, et puis Suzanne Laclore à la protection de l'enfance, et Cécile Brunschwig à l'éducation nationale. C'est-à-dire que ce sont aussi les portefeuilles qui sont considérés comme typiquement féminins. Hein. N'exagérons rien, on ne va pas les trouver à la Défense. Mais là encore, le Sénat va faire obstruction. Et puis, on a une période quand même assez particulière, qui est la période de Vichy, où là, ça va être le complet retour en arrière, avec une conception de la féminité totalement naturalisée. Hein. C'est l'idée qu'il y a un éternel féminin, donc on est en plein dans les représentations naturalisantes que j'avais évoquées la semaine dernière, et on a une conception des femmes, avant tout sous les traits de la mère au foyer. Hein. Il y a un ouvrage excellent de Francine Muel-Dreyfus, qui s'appelle « Vichy et l'éternel féminin », où elle, j'ai pas retrouvé la formule exacte, mais où elle dit, elle a une citation, dit Pétain, « Vichy aime les femmes, mais enceintes et en chaussons dans leur cuisine ». Et elle évoque aussi une visite de Pétain à une école normale de femmes, et on lui présente voilà, des futures enseignantes, et il y en a une qui est future prof de chimie, et Pétain lui rétorque, ah, c'est très bien, c'est ce qui ressemble le plus à la cuisine. Bon. Alors, on est, bon, on a la bêtise de ce type de discours, mais on a aussi des politiques très fortes de contrôle du corps des femmes. Hein. Allié à tout un discours sur la dégénérescence de la race, bon, avec le discours raciste et eugéniste qu'on va retrouver sous la plume notamment de Carrel. Et puis on a un contrôle de la fertilité des femmes. Hein. Je revois, bon, c'est le film de Claude Chabrol s'inspire d'une histoire vraie, une affaire de femme sur, voilà, on a guillotiné une femme pour avoir réalisé des avortements sous Vichy. Alors, à la Libération, qu'est-ce qui se passe? Ben, déjà, avant même la Libération, De Gaulle s'est déclaré en faveur du vote des femmes dès 1942, et c'est le Comité français de libération nationale qui a élaboré l'ordonnance du 21 avril 1944, qui donc va accorder le droit de vote aux femmes. Ça n'a pas été très facile, parce qu'une nouvelle fois, il y avait les radicaux et une aile familialiste de la résistance chrétienne qui n'était pas forcément pour les mêmes raisons qu'auparavant au Sénat. Mais ils ont été mis en minorité par les communistes et par la résistance de gauche, ainsi que par les gaullistes et les chrétiens progressistes. Alors, là aussi, avec des arrière-pensées, c'est-à-dire avec l'idée que le vote des femmes permettrait de contrecarrer l'influence communiste dans l'électorat. Hein. Donc, à la fois, on est sur des grands principes, et puis on est sur des calculs à court terme. Hein. Est-ce que c'est bon ou pas que les femmes votent pour notre propre cuisine électorale. Alors donc, ça vaut la peine de se pencher un peu sur cette idée d'un vote conservateur des femmes. Est-ce que c'est vrai qu'elles votent plus à droite lorsqu'elles ont le droit de vote? Alors, la réponse, en fait, est c'est variable. Et ce qu'on remarque, c'est que dans la plupart des pays, le vote des femmes suit la même évolution, ce qu'on appelle le « gender gap » en anglais, hein, le fossé du genre, l'écart de genre, qui se déroule en 3 étapes. Hein, et la France n'a pas fait exception. Première étape, le gender gap, ben, ça consiste en une phase d'apprentissage. Hein, et en France, c'est une période qui court de 1945 aux années 70, où on repère tout d'abord que les femmes, elles votent moins que les hommes. Hein, et c'est un phénomène qui est bien connu par la sociologie politique, c'est-à-dire que avant de voter, il faut se sentir autorisé à avoir une opinion. Et quand on n'a pas l'habitude des débats politiques, lorsque pendant longtemps on en a été exclu, on ne se sent pas autorisé à émettre une opinion. Alors c'est aussi lié au niveau de diplôme. On sait toujours aujourd'hui que les moins diplômés votent moins parce que ils ne se sentent pas autorisés, ils se sentent très loin de tout ça. Donc, première chose, les femmes, dans un premier temps, vont s'abstenir beaucoup plus que les hommes. Et puis l'autre aspect de cette première phase du gender gap, c'est que effectivement, le vote des femmes, il est orienté surtout vers la droite. Et notamment, elles votent nettement moins pour le Parti communiste. Alors, deuxième étape, c'est un affaiblissement progressif de ce gender gap. Alors, au cours des années 70, principalement, les votes masculins et féminins vont se rejoindre, les différences vont s'atténuer. Et par exemple, en 81, le vote des femmes est encore majoritairement de droite, mais l'écart se réduit. En 1986, c'est équivalent. On a le même vote chez hommes et femmes, quasiment. Et également, on a un rapprochement des taux de participation. À âge et à situation socio-économique égale, les femmes et les hommes votent à peu près autant. Et puis, troisième étape, à la fin des années 80, un nouveau gender gap qui apparaît, nouvel écart, mais cette fois il est inversé. Les femmes votent significativement plus à gauche que les hommes, et cela aussi sous l'effet d'une transformation de l'offre électorale. Le vote des femmes marque un net refus des votes extrémistes, et en France, en premier lieu, un refus du vote FN. Les femmes votent nettement moins que les hommes pour le FN. Alors, on a différentes pistes d'explication de ce retournement du vote des femmes, si on compare à la situation de 45. C'est quelque chose qui touche l'ensemble des pays industrialisés. C'est qu'entre-temps, la situation des femmes, elle a beaucoup changé. Elles ont davantage accès à l'éducation, au marché du travail. La religion s'est considérablement affaiblie. Et ça ne représente plus une référence politique et morale influente. Bref, les femmes sont davantage en mesure d'effectuer des choix politiques autonomes, davantage informées de leurs... et elles sont aussi davantage informées de leurs intérêts. Alors, évidemment, le poids de cette variable du genre, elle se combine avec d'autres, elle ne joue pas de manière unilatérale. Les femmes jeunes sont plus progressistes que les femmes âgées, statistiquement. Celles qui travaillent votent plus à gauche que celles qui sont inactives. Et puis, dans leur ensemble, malgré tout, une tendance qui reste, c'est que les femmes se déclarent moins intéressées par la politique que les hommes. Et c'est aussi que la politique, c'est une activité spécialisée qui est très peu accueillante pour les femmes, et c'est ce que je vais aborder maintenant dans mon deuxième point. Donc la question du genre et de la participation, l'investissement dans les partis et de la participation au jeu politique. Alors, il est bien connu qu'il ne suffit pas qu'un droit soit officiellement ouvert pour que tous ceux et celles qui peuvent y prétendent effectivement. Et c'est le cas de la compétition politique, qui a été ouverte aux femmes en même temps qu'elles obtenaient le droit de vote. Elles n'ont pas seulement obtenu le droit de voter, mais également celui d'être élues, mais force est de constater que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la compétition politique et que le fonctionnement de cette compétition, il est défavorable aux femmes. Le personnel politique, il est dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, un personnel dans son écrasante majorité masculin. On n'a jamais eu de présidente de la République depuis un siècle et demi que cette fonction existe. On pourra dire que si le personnel politique il est si peu féminisé, c'est faute de combattantes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui se présentent. Alors, c'est une explication un petit peu courte, parce qu'elle consiste à quelque chose d'assez classique, à blâmer la victime. C'est de votre faute, si vous êtes en situation dominée. Et puis parce qu'elle pose comme explication ce qu'il faudrait au contraire expliquer, c'est-à-dire pourquoi les femmes ne s'investissent pas dans le jeu politique, pourquoi elles ne trouvent pas ça pertinent, intéressant, excitant, alors que les hommes, eux, trouvent ça passionnant. Alors là aussi, quelques données de base, et puis je passerai à des éléments d'explication. La France occupe le 84e rang mondial pour ce qui est de la représentation des femmes au Parlement, avec 12% de femmes à l'Assemblée nationale. Le pays qui occupe la première place est le Rwanda, avec 39 femmes sur 80 parlementaires. Alors derrière la femme, on a la France. On a l'Italie, la Fédération de Russie, la Hongrie, le Japon et le Brésil. Alors, faut saluer la progression de ce pourcentage. En 45, on avait 5,6% de femmes à l'Assemblée nationale, 6,8% entre 46 et 51. On a eu le plus bas entre 58 et 62 avec 1,5% de femmes à l'Assemblée nationale. Et ça progresse, voilà, depuis, on va dire, la fin des années 70, donc pour arriver à 12,1% entre 2002 et 2007. Donc on voit que ça progresse à la vitesse d'un escargot. Alors, ce qui est, au Sénat, on a 17% en 2004, ce qui n'est pas terrible non plus. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que tous les postes électoraux n'offrent pas la même résistance à la féminisation. Cette résistance, elle est maximale à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux conseils généraux. En 2004, il y avait 18 conseils généraux qui ne comptaient aucune femme. Alors, les femmes sont mieux représentées dans les conseils municipaux, spécialement dans les grandes communes. Pour autant, elles ne deviennent pas plus facilement maires. C'est-à-dire qu'on leur laisse une place dans les communes, mais à condition que ce ne soit pas la première place. Donc on a 10% de femmes qui sont maires en France. Et lorsqu'elles sont dans des équipes municipales, on leur confie le plus souvent des, entre guillemets, postes de femmes, c'est-à-dire qu'on les colle aux affaires scolaires, sociales, petite enfance, etc. Alors, là où la présence des femmes a été la plus rapide et la plus importante, c'est dans les conseils régionaux et au Parlement européen. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que ce sont des élections au scrutin de liste et à la proportionnelle. Donc, la concurrence est moins rude que lorsqu'il y a un candidat unique. Ce sont aussi, surtout pour les élections européennes, des mandats qui sont moins prestigieux dans la hiérarchie politique. C'est des lieux de formation pour les jeunes politiciens ou politiciennes ou une voie de garage pour les anciens avant la retraite. Donc, c'est des postes qui sont moins recherchés. Donc là, on concède quelques places aux femmes, mais parce qu'il s'agit d'une position de second plan. Ce qu'on remarque aussi chez les femmes politiques, c'est qu'elles sont sursélectionnées, c'est-à-dire qu'elles ont plus de diplômes. Elles occupent des positions professionnelles plus valorisées que leurs collègues hommes, c'est-à-dire qu'elles doivent faire davantage d'efforts pour obtenir les mêmes postes. Là, le champ politique n'est pas très original sur ce plan. Pour ce qui est de l'accès aux fonctions gouvernementales, là aussi, les écarts sont importants. À partir de 68, les écarts sont moindres qu'au Parlement. On a eu 3 femmes qui ont été ponctuellement nommées dans des cabinets sous la 4e République et secrétaires d'État, évidemment au plus bas de l'échelle. Bon, à partir de 68, ça s'améliore un petit peu, 10,5% de femmes au gouvernement en 75, 14% en 81, 28,5% en 95, 30,7% en 97. Il n'y a pas de différence notable entre gauche et droite, mais il y a des effets de seuil. C'est-à-dire qu'il est très rare qu'un gouvernement compte moins de femmes que celui qui l'a précédé. Sauf entre gouvernement Juppé 1 et le gouvernement Juppé 2, où, selon la formule restée célèbre, il avait viré les pétasses. Alors, ce qui était intéressant, bon, c'est la grossièreté du personnage éclate claire, c'est que, mais j'y reviendrai, c'est l'aspect aussi marketing de l'affichage des femmes. C'est-à-dire, c'était uniquement pour, voilà. Puis là aussi, avec une hiérarchie qu'on repère, c'est-à-dire qu'on les cantonne à des postes, à des dossiers qui sont considérés comme spécifiquement féminins, et on les retrouve davantage chez les secrétaires d'État que chez les ministres d'État. Il faudra attendre assez longtemps pour trouver des femmes ministres d'État et dans des postes importants, et on n'a eu qu'une seule femme première ministre, Edith Cresson, et elle a pas mal souffert, quoi qu'on pense de sa politique, mais du fait d'être une femme lorsque elle était en fonction. Alors, plusieurs explications peuvent être proposées pour à cette logique d'exclusion des femmes du champ politique, et spécialement des postes d'élus. C'est plus facile d'être ministre que d'être député, d'une certaine manière. Parce que le scrutin uninominal rend la concurrence plus rude, et c'est le scrutin uninominal qui préside aux élections les plus importantes, de députés, par exemple. Le cumul des mandats joue aussi, parce que ça réduit le nombre de compétiteurs en lice pour les postes, Et Satan a accordé une prime de notoriété à ceux qui sont déjà en place, qui occupent un autre poste. Hein. Le maire qui veut se faire élire député, ou qui veut se faire élire conseiller général, ou inversement. Hein. Et puis, qui sont aussi les sortants à reconduire. Et puis, les partis les plus féminisés, hein, notamment les écolos et l'extrême-gauche, sont ceux qui sont les plus faibles électoralement, qui ont le moins de chances d'avoir des élus. Et puis, il y a aussi les modes de fonctionnement du champ politique lui-même, les relations internes aux partis et la manière dont se réalise la compétition à l'intérieur des partis pour des investitures ou des postes de direction. Alors, on pense, évidemment, on en a une image assez extrême avec le Parti socialiste, parce qu'il y a les courants qui sont identifiés et il y a les leaders. Et dans les autres partis, c'est pareil, il y a une guerre assez rude pour obtenir les postes de direction, les postes les plus importants et les investitures les plus facilement gagnables. Hein. D'où, évidemment, une tendance des femmes à s'effacer d'un jeu politique où la compétition est brutale et où elles doivent faire preuve de davantage encore de dureté, d'agressivité que les hommes. Alors, ce qui les conduit, celles qui, malgré tout, veulent poursuivre la compétition, ça les conduit à l'endossement d'une identité ambivalente qui, à la fois, leur permet de jouer sur l'identité féminine telle qu'elle est socialement définie. Hein, on va jouer sur le charme, la séduction, l'attention aux autres, toutes les qualités supposées féminines, la maternité. Bon, je vous rappelle pas la campagne de Ségolène Royal. Mais, alors ça c'est, je dirais, pour l'image publique, tout en endossant des modes de fonctionnement, entre guillemets, socialement considérés comme masculins, mais sur un mode davantage rationalisé, hein, de manière à conduire des batailles internes et à gagner ces batailles. Alors, cette moindre accessibilité des femmes au poste de pouvoir a commencé à faire désordre, quand même, au bout d'un moment. Hein, parce qu'un des sens de l'identité de représentation politique, c'est que les représentants doivent être représentatifs des représentés. Alors, ce qui n'est pas le cas lorsque, évidemment, 88% d'hommes représentent 50% de femmes. D'où le débat sur la parité, hein, sur lequel je vais dire quelques mots, et puis l'instauration d'un système de quotas lors de certaines élections, alors, et notamment pas les conseils généraux. Dont on a vu qu'ils étaient un bastion masculin et que ça entendait rester un bastion masculin. Alors, certains partis, et spécialement les écologistes, avaient d'eux-mêmes établi la parité dans les années 90, lors des scrutins de liste, hein, mais d'eux-mêmes, ils avaient décidé ce qu'on avait appelé les listes Shabada, parce que c'était un homme, une femme, comme dans le film de Lelouch. Il y avait eu une tentative en 1982, de loi qui prévoyait que pas plus de 75%, on était quand même loin de la parité, hein, déjà, 75% d'une liste municipale ne pouvait être du même sexe. Et ça avait été annulé par le Conseil constitutionnel. Et donc, il a fallu qu'il y ait une réforme constitutionnelle pour que la loi sur la parité soit votée, donc la loi du 6 juin 2000, qui prévoit que lors des scrutins de liste, eh ben, ces listes seront composées paritairement, hein, moitié d'hommes et de femmes, et puis que les scrutins uninominaux, notamment pour les législatives, eh bien, les partis doivent présenter un nombre égal de candidats et de candidates. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la parité, dans la loi sur la parité, c'est le débat qu'elle a suscité et puis les usages qu'elle a rendus possibles. La parité, elle a été défendue d'une part avec l'idée qu'il était inacceptable dans une démocratie que les représentants, donc, ne soient pas représentatifs. Donc ça, c'est un premier argument qui est assez intéressant. Mais aussi, une autre idée, c'est que l'arrivée massive de femmes au poste de pouvoir va être une bonne chose pour la démocratie, du fait même que ce sont des femmes. Et là, on a quelque chose d'intéressant, parce que c'est un peu paradoxal. On a une revendication qui s'oppose à bon droit comme féministe, hein, et revendication qui s'appuie sur l'idée que le pouvoir politique ne doit pas être monopolisé par les femmes, donc une revendication d'égalité. Égalité des hommes et des femmes dans l'accès à certaines fonctions de pouvoir. Mais cette revendication d'égalité se coule dans un argumentaire pas très féministe en lui-même, parce qu'il avance que les femmes, parce qu'elles sont des femmes, aurait une manière d'appréhender et de conduire les affaires publiques différente de celle des hommes. Donc avec les femmes, on ferait de la politique autrement. On est donc dans un discours différentialiste, au sens où il met l'accent sur des différences irréductibles qui sépareraient les hommes des femmes. Et on retrouve tout un tas de stéréotypes sexistes, repris par les défenseurs de la parité, tels que les femmes ont davantage le sens du concret, sont moins brutales, sont moins agressives, sont plus soucieuses des faibles et des démunis, sont moins politiciennes, etc., etc. Donc tous les stéréotypes qui ont été repris pour justifier la parité. D'où le reproche qui a été adressé à la loi, elle renforce la différence homme-femme, elle l'inscrit dans les institutions, alors qu'il faudrait au contraire abolir cette différence. C'est-à-dire se dire, finalement, il n'y a pas de raison de faire une différence en fonction du sexe au niveau du politique. Et on devrait considérer que le sexe est quelque chose de secondaire dans la manière de conduire les affaires publiques, et ce n'est pas quelque chose de prédominant. Et ça ne doit pas être quelque chose de handicapant, notamment dans la compétition électorale. Et puis le reproche, il a été adressé d'institutionnaliser par la parité cette différence en la mettant à part comme prédominante sur d'autres différences qui, elles aussi, font d'une exclusion de la politique. Comme par exemple les différences de classe ou de couleur de peau ou d'origine. Les classes populaires aussi sont exclues de la représentation politique. Donc est-ce que c'est mieux d'être gouverné par 50% de femmes bourgeoises et 50% d'hommes bourgeois? Pourquoi cette différence de sexe serait prééminente sur les différences de classe, par exemple, dans le souci de la représentativité? Cette idée, ça a été défendu par ceux et celles qui sont en faveur de la parité, avec l'idée que la différence des sexes, ça transcende les autres différences. Notamment, ça a été défendu par Sylviane Agazinski. Alors, premier point sur la mise en pratique de la parité, c'est que évidemment, il est possible de tourner la loi en réservant au niveau des législatives les circonscriptions qui sont perdues d'avance aux femmes. Ce qui fait qu'on arrive toujours après la parité à 88% d'hommes. On peut aussi accepter les pénalités financières plutôt que de présenter des femmes en nombre suffisant. C'est ce que font les partis qui en ont les moyens. Mais la parité, ce n'est pas seulement une contrainte, et ce qui est aussi admirable, ce sont les usages qui en ont été faits. Parce que je reviens à cette idée que la parité, ça va permettre de changer la politique, de faire de la politique autrement. Et il y a une idée qui s'est imposée dans le champ politique, c'est qu'il est délégitimé, décrédibilisé, parce qu'il serait le monopole de professionnels qui vivent pour, mais aussi de la politique. Et donc ces professionnels seraient coupés des attentes de la société civile, ils ne seraient plus en contact avec, en prise avec la société. Alors, ce qui n'est pas totalement faux comme idée. Ce qu'on peut contester, c'est l'idée que ça soit neuf, parce que sous la Troisième République, au moment du boulangisme, c'était pas terrible. Dans les années 30, le personnel politique n'était pas forcément très bien vu par les électeurs. Sous la Quatrième République, c'était pas terrible non plus, et la Cinquième non plus. Donc voilà, cette idée de la nouveauté est à remettre en cause. Je dirais que c'est quelque chose de classique dans le champ politique, l'idée que les députés ne sont pas représentatifs, n'écoutent pas assez les revendications du peuple. Et c'est pas non plus totalement faux. Simplement, récemment, le personnel politique, il a pris la critique au sérieux et il a entendu y répondre. Et il a entendu y répondre principalement en se présentant comme plus ouvert sur la société civile, ouvert à des gens qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui seraient par exemple, issus de minorités. Et la parité va offrir les moyens de cette image d'ouverture. Et notamment, je l'ai mis, je crois, en bibliographie, dans l'ouvrage « Sexe, genre et politique », piloté notamment par Catherine Achin. Donc, il y a une équipe de politistes qui a étudié la mise en place de la parité au municipal de 2001. Et ils ont montré ce qu'elles ont appelé la fonction marketing de la parité. C'est-à-dire qu'il s'agit de relooker les listes en montrant qu'on est plus ouvert que les concurrents des autres partis. Et pour ça, on met des femmes, on met des jeunes et on met des minorités. Et le mieux, ce qui est vraiment top, c'est quand on arrive à avoir les trois en un. C'est-à-dire une jeune femme issue de l'immigration, ça montre qu'on est très ouvert et ça libère des places sur la liste. Et je résiste pas au plaisir de citer, c'est dans le bouquin, tête de liste homme, Parti socialiste, ville moyenne, qui donc, dans un entretien avec les politistes, leur dit « Je me suis dit, je cherche une femme qui soit beurre, qui physiquement ne soit pas mal, qui soit intégrée, qui bosse et qui ait envie de s'impliquer. » Donc ça a été vraiment le fait du hasard, parce qu'elle répondait à tous les paramètres que moi je m'étais fixé dans ma tête. Donc on voit bien la manière dont c'est rationalisé. Et ce qui est intéressant, c'est plein de qualificatifs qui reviennent dans les entretiens, qui sont employés par les têtes de liste pour désigner les candidates femmes sur leur liste. Et on peut se demander si, pour désigner des colistiers hommes, ils utiliseraient les mêmes qualificatifs. Alors je les cite à la suite. Étonnante, son côté jeune, son côté femme, passotte, intelligente, brouillonne, physiquement pas mal, intégrée, femme de médecin, gentille, marrante, simple dans son fonctionnement et pas embêtante. Donc on voit, je terminerai ce deuxième point sur ça, qu'il ne suffit pas d'ouvrir l'accès des postes politiques aux femmes pour que la domination masculine disparaisse du champ politique. Alors, j'en viens à mon troisième point, donc genre et mouvements sociaux. Hein, il n'y a pas de raison que le domaine militant échappe au processus que je viens de décrire dans la vie politique plus institutionnalisée. Hein, les mêmes processus de sélection au regard du sexe et qui écartent les femmes des postes de direction se retrouvent dans le secteur syndical et dans le secteur associatif. Pour ce qui est des mouvements, je dirais, à dimension insurrectionnelle, quelque chose qui a été remarqué par les historiennes féministes, c'est que on peut constater un paradoxe. Les héros révolutionnaires sont dans leur écrasante majorité des hommes. Pourtant, ce sont souvent des femmes qui ont joué un rôle déterminant dans le déclenchement de bon nombre d'insurrections. Hein. Et notamment parce que ce sont elles qui, dans la famille, sont en charge de l'approvisionnement en nourriture. Elles sont les premières confrontées à des problèmes tels que l'augmentation du prix du pain ou les disettes. Et on trouve souvent, si on regarde bien, des femmes à l'origine des émeutes frumentaires, par exemple, au XVIIIe siècle. Hein, révolte sur le prix du pain, etc. Simplement, lorsque ces insurrections se développent et qu'elles prennent un tour plus proprement politique, ben, elles en sont dépossédées par les hommes et elles retombent dans l'anonymat. Et même pendant la Commune, ben, les femmes, elles ont joué un rôle important, mais si on y regarde bien, elles ont surtout joué un rôle d'infirmière, de cuisinière ou d'enseignante. Et l'image de la pétroleuse, elle a été en grande partie construite par les Versaillais, qui précisément ont pris prétexte de la participation de quelques femmes à la défense armée de la Commune pour souligner ce qu'ils considéraient comme la monstruosité du projet politique de la Commune. La Commune, c'était un projet monstrueux qui mettait le monde à l'envers, aussi parce qu'elle donnait des armes aux femmes. Et ces femmes étaient monstrueuses, dénaturées, hystériques, dégénérées, tout ce que vous voulez, pour prétendre ainsi accéder à la violence, dans l'esprit des Versaillais. Alors la sociologie des mouvements sociaux contemporains, elle intègre de plus en plus cette variable du genre, hein, même si c'est encore un peu timide, et elle s'intéresse surtout à la manière dont le militantisme reproduit le genre, reproduit ce rapport de domination entre hommes et femmes. Hein. Les pratiques militantes ne sont pas neutres, mais elles sont tramées par le genre et elles reproduisent les rapports inégaux entre hommes et femmes, y compris dans les mouvements qui se pensent ou qui se veulent les plus égalitaires. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a certains mouvements qui attirent davantage d'hommes et d'autres qui attirent davantage de femmes. Hein, par exemple, un exemple très contemporain, Réseau Éducation Sans Frontières, sur lequel je travaille actuellement, j'assiste aux réunions départementales, il arrive assez fréquemment que je sois le seul homme. Et ce sont majoritairement des femmes qui s'investissent dans cette cause. Parce que c'est une cause qui s'intéresse avant tout à des enfants, hein, enfants de sans-papiers, dont il s'agit de défendre le droit à l'école. Et c'est une cause qui est née dans le monde de l'éducation, et plus précisément dans les écoles et les collèges, c'est-à-dire dans des établissements qui sont composés en majorité d'enseignantes femmes. Ce sont des femmes qui s'impliquent dans RESF parce que ce sont en priorité des femmes qui se trouvent confrontées à la situation des enfants de sans-papiers en tant qu'enseignantes, que travailleuses sociales ou que parents d'élèves. Dans les couples, ce sont surtout les femmes qui s'occupent de l'éducation, ce sont celles qui ont le plus de contact avec l'école et donc qui se retrouvent parents d'élèves. Alors, une nouvelle fois, ce sont des constats, je dirais, statistiques, tendanciels. Il y a quelques hommes qui militent au sein de RESF, mais quand même, c'est majoritairement des femmes. Au niveau, je dirais, de base, lorsqu'il s'agit de penser à des porte-paroles nationaux, vous allez davantage trouver d'hommes. Donc, ce soit dans une fédération de parents d'élèves ou comme RESF. Donc il y a des causes davantage féminines, il y a des causes qui sont davantage masculines. Alors par exemple, les groupuscules d'extrême droite sont majoritairement masculins, à la fois parce que c'est un militantisme agressif qui va valoriser et solliciter des dispositions masculines, mais aussi parce que l'idéologie du groupe légitime l'effacement des femmes. J'ai une étudiante qui travaille sur le renouveau français, avant ça s'appelait la Garde Franque, qui est un groupuscule d'extrême droite catholique, royaliste. Lorsqu'ils font des camps d'été, il y a quelques femmes. C'est intéressant ce groupe parce qu'il y a des femmes qui malgré tout, entendent y militer. Et lorsqu'ils font des camps d'été, les garçons font de l'entraînement au combat et les femmes font la cuisine. Mais néanmoins, il y a des femmes qui prétendent coller des affiches et ça leur pose problème. Alors, on va se dire, l'exemple des groupuscules d'extrême droite, il est d'une certaine manière trop beau. Parce qu'on se dit, voilà, ils ont une idéologie, ils sont pétainistes, ils sont royalistes, ils sont catho-intégristes. Pour eux, Sauf que si on regarde d'autres mouvements un peu plus, à mes yeux, plus sympathiques, on va retrouver des choses un peu troublantes. Notamment quelque chose que j'ai étudié, c'est le contre-sommet d'Annemasse en 2003, donc dans le cadre du mouvement altermondialiste, il y avait le G8 à Évian, il y avait des villages altermondialistes qui s'étaient construits et il y avait des féministes qui avaient eu l'idée d'un village non mixte pour discuter des enjeux féministes. Alors c'est au sein du mouvement altermondialiste, donc qui se veut pro-féministe, égalitaire, tout ce que vous voulez, sauf que lorsqu'elles ont établi leur campement non mixte, donc il était dans une zone, c'était dans la campagne, il y avait une pancarte disant la barrière, et les mecs allaient tous pisser contre la pancarte. Étonnant quand même. Et puis il y a eu des agressions parce que c'était quelque chose, et beaucoup d'incompréhension parce que c'était pas mixte, et c'était inadmissible que les filles parlent entre filles de leur... Une des réactions qui est intéressante, il y avait un concert punk dans le cadre du contre G8 d'Annemasse, et les filles qui ont été de ce camp qui s'appelait le point G, j'ai oublié de le dire, ont décidé, elles en ont eu un peu ras-le-bol de ce qu'on leur faisait subir, et donc concert punk, ça veut dire qu'on danse le pogo. Alors le pogo, c'est une danse très brutale où on se bouscule, c'est typiquement masculin. Et les filles ont fait une entrée en masse et ont viré tous les mecs en dansant le pogo, en étant plus agressives qu'eux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont montré que n'allait pas de soi ce qui en temps ordinaire va de soi, c'est-à-dire que ce type de danse, ce type de loisir est spécifiquement masculin. Et ça, je sais pas si ça a eu beaucoup d'effet, mais... ça devait interpeller les gars sur le fait, tous vos discours très égalitaires, connaissent aussi une limite dans la pratique. Et par cette pratique et l'irruption d'un groupe de femmes qui vont bousculer les hommes, c'était une manière de remettre en cause ce que Goffman, j'avais évoqué la notion la semaine dernière, appelle l'arrangement des sexes, c'est-à-dire le fait que, en temps ordinaire, tout va de soi. Tout va bien dans les rapports entre hommes et femmes. On n'interroge pas beaucoup de choses qui sont tramées par de la domination et de l'exclusion. Alors, là où le genre se révèle le mieux dans le militantisme, c'est dans la division sexuelle du travail militant. Si on considère que le militantisme, c'est aussi des activités qui relèvent d'un travail, on constate que les femmes tirent les tracts que les hommes rédigent, qu'elles font l'accueil pendant que les hommes prennent la parole, qu'elles rangent après la réunion pendant que les mecs refont les débats en fumant une clope dehors. Alors, leur travail, il est souvent décisif. Le mouvement ne pourrait pas se développer sans leur contribution, mais il est invisibilisé. Il est aussi perçu comme le prolongement de leurs aptitudes féminines naturelles, le soin, l'attention, le souci des autres, le souci de que tout se passe bien. Pas seulement préparer le café, mais penser qu'il faudra amener du café pour la réunion. Et comme il est naturalisé, comme il va de soi, tout au moins, il est déqualifié. Ils n'ont pas à se forcer à faire un apprentissage, ça revient naturellement, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets à ça, alors que les activités masculines sont remarquées et saluées sur un mode davantage valorisant. Alors, je renvoie à l'ouvrage dirigé par Olivier Filleul et Patricia Roux, qui est dans la bibliographie « Le sexe du militantisme », où il y a quelques exemples qui sont assez parlants de cette division du travail militant, notamment dans les milieux anarchistes, mais pas seulement, je stigmatise pas, mais par exemple dans les MJS, ce qui est intéressant, c'est que les filles font des collages d'affiches. Donc voilà, c'est mixte, très bien. C'est une collègue qui s'appelle Lucie Bargel qui a travaillé donc sur le mouvement des jeunesses socialistes. Mais s'il n'y a pas de garçons, le collage est annulé. Bah, oui, parce que pour les raisons de sécurité, c'est-à-dire que les filles ne sont pas capables de se défendre s'il y a un problème. Donc voilà, on reste quand même tramé dans ce type de représentation inégalitaire. Une autre illustration dans le bouquin de Filleul et Roux, c'est le travail qui est très intéressant de Xavier Dunza sur le mouvement des chômeurs en Bretagne. C'est-à-dire, il montre comment dans ce mouvement, qui là aussi, alors, il y avait beaucoup d'anarchistes dans ce mouvement, donc il n'y a pas de chef, comme toujours chez les anars, mais il a constaté en suivant le mouvement sur la durée que les rapports de genre ont progressivement fait disparaître les femmes qui étaient les plus investies, au profit des hommes qui sont de fait devenus les animateurs, pas les chefs, mais les animateurs, on va dire. C'est la même chose, mais bon. Et puis, quand elles se sont retirées, soit elles se sont... Ils ont quitté le mouvement, soit elles se sont rabattues sur des activités de second plan, comme la cuisine, le rangement, l'approvisionnement, le réconfort à ceux qui craquent, parce que occuper des acédiques, etc., c'est lourd. Et on constate qu'il y a plein de manières que la sociologie interactionniste permet de décrire très finement dans le militantisme, de ne pas entendre les prises de parole des femmes, de recouper la parole, de discuter en coulisses en faisant un bruit de fond pendant qu'elles parlent, de les interrompre pour préciser ce qu'elles n'ont pas su dire clairement, de rapporter leurs idées à des hommes aussi, ça c'est... tout ça, ça trame la pratique militante. Juste un exemple, c'était une réunion récente du NPA. Il y avait quatre personnes qui intervenaient, il y avait trois hommes et une femme. L'intervention de la femme a été interrompue trois fois par ses collègues de la tribune qui ont voulu ajouter des précisions à ce qu'elle disait. C'était magnifique. Je crois que c'était une situation expérimentale, vous n'y arrivez pas. Alors, mais personne n'a trouvé nécessaire de préciser ce que disait un mec. Voilà. Alors, le travail de Dunza, je m'y arrête un peu parce qu'il est très intéressant, parce qu'il montre aussi comment la domination masculine, elle n'est pas seule à l'œuvre. Il prend aussi en compte les différences de capital scolaire et de compétences ou d'expérience militante. Ceux qui vont prendre les commandes du mouvement des chômeurs, celui qu'il a étudié, ce ne sont pas n'importe quels hommes, ce sont des hommes, certes, mais ce sont ceux qui ont une longue expérience militante, qui savent prendre la parole en Assemblée Générale, tandis que ceux qui sont chômeurs de longue durée, qui n'ont pas de capital scolaire, qui sont proches de l'exclusion, etc., vont être tenus à l'écart de la direction de la lutte. Mais comme ce sont eux qui craquent, c'est vers eux que les femmes vont reporter leur attention. Alors, les féministes, aussi, elles ont été amenées à prendre en compte que... Je vais terminer là-dessus. Je suis un peu long, mais je n'avais plus pour longtemps. Elles ont été amenées à prendre en compte que la domination masculine, elle n'agit pas seule. Alors, c'est une évolution qui n'allait pas de soi, parce que le féminisme des années 60-70, il est très largement issu de l'extrême-gauche, notamment en France, pas seulement en France, aux États-Unis aussi. Et les féministes, elles ont dû combattre l'idée que défendaient leurs camarades hommes des groupes d'extrême-gauche, l'idée selon laquelle la domination masculine existe, certes, mais c'est quelque chose de secondaire et c'est simplement une conséquence du capitalisme. Et quand on aura supprimé le capitalisme, comme par miracle, la domination masculine s'effacera. Et donc les féministes, elles ont dû lutter pour montrer que le genre, c'était un système de domination et d'exploitation et autonome, indépendant. Et ce faisant, mais c'était logique et nécessaire de la construction de la critique proprement féministe, elles ont tendu à écarter, dans une certaine mesure, les questions de classe. Mais évidemment, ça a été impossible de maintenir cette attitude sur la longue durée. Et notamment, certaines féministes aux États-Unis, des féministes noires, ont fait le reproche aux féministes blanches d'ignorer les spécificités de la domination masculine lorsqu'elle est en plus racialisée. Et elles leur ont fait le reproche d'avoir universalisé, posé en seule référence, leurs conditions de femmes blanches. Et donc, sous l'impulsion de ce qu'on a appelé le black feminism, le féminisme noir, les rapports entre genre, classe et race ont été pris en compte pour leur effet d'entrecroisement et de renforcement mutuel, hein, ce qu'on désigne comme la question de l'intersectionnalité. Il y a des intersections entre les rapports de domination. Et je renvoie notamment pour ça au livre d'Elsa Dorlin, qui est dirigé par Elsa Dorlin, qui vient de sortir, donc « Sexe, race, classe pour une épistémologie de la domination » aux presses universitaires de France, dans la collection Actuel Marx. Alors c'est une question importante pour le féminisme. Elle a été, c'est un mouvement qui a été impulsé et construit par des femmes blanches de la petite bourgeoisie qui prétendent défendre la cause de l'ensemble des femmes, et on doit les saluer pour ça. Il n'y a aucun doute sur leur sincérité, mais est-ce que leur localisation de classe est raciale, parce que bon, c'est des débats qui viennent des États-Unis, alors le terme de race il est toujours très délicat en France, mais malgré tout, on est obligé on s'aperçoit qu'on ne peut pas occulter cette question non plus. Est-ce que leur localisation de classe est raciale n'induit pas des biais dans la manière dont elles conçoivent cette cause de toutes les femmes, hein? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de la domination de classe et de race dans la manière dont elles pensent que les femmes de couleur ou de milieux populaires devraient se comporter, hein? C'est un débat qui est né aux États-Unis, mais dont on voit immédiatement qu'il rentre en écho avec la manière dont la question du voile, par exemple, elle est posée dans le féminisme français contemporain. Alors, je ne veux pas prendre position dans ce débat, je veux simplement signaler le problème, hein, qui n'est pas spécifique au féminisme, entre la défense d'un point de vue qui se veut universel et l'inévitable localisation sociale, genrée, raciale, de ceux et celles qui défendent ce point de vue. Donc, il n'y a pas de solution miracle, je pense, mais identifier le problème, c'est déjà un moyen de ne pas être pris au piège de ce problème. Voilà, je m'arrête là, j'ai été beaucoup trop bavard. À vous la parole. Merci.